des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Clotilde qui vous parle et qui vous présente une nouvelle fois l'émission des livres plein les oreilles, qui va vous en mettre plein les oreilles des mots avec notamment mes deux collaborateurs chouchou qui reviennent régulièrement à cette émission. J'ai nommé Gérald Cousineau qui va ouvrir le bal, si j'ose dire, et puis Gérard Saint-Denis qu'on va retrouver un petit peu plus tard en seconde partie autour d'un thème aujourd'hui tout spécial, les baleines, les dauphins et le fleuve. Et puis sinon, eh bien, il y aura les rubriques, les chroniques que vous aimez, du moins j'espère que vous les aimez, des nouvelles et des livres autour de Marcel Proust, également la bande-annonce. Si tout va bien, nous recevrons la semaine prochaine José Di Stasio. Je dis si tout va bien, parce que il se passe parfois des drôles de choses. Alors, la réalité sera peut-être tout autre. Et puis, nous irons voir Gérard Saint-Denis et nous finirons cette émission avec quelques nouveautés en rafale. Mais tout de suite, alors que notre invité, parce que là vous vous dites tout, mais qui est aussi l'autre invité, ben je pense qu'il doit être un peu à la course, c'est une façon de parler, parce que c'est quand même... Je vais accueillir celui qui a écrit le livre PAS, P-A-S, celui qui a, je crois, mis la presse à la course. Tout le monde court à la presse à cause de lui, en l'occurrence Yves Boisvert, mais honnêtement, nous l'attendons encore pour le moment, alors on va y croire. Le temps de retrouver avec grand plaisir Gérald Cousineau. Bonjour cher Gérald.
Bonjour chère Clotilde.
Et comment allons-nous aujourd'hui?
Ma foi, assez bien, merci.
Assez bien, merci. Mon père avait une formule, il disait « Oh, pour l'âge, faut pas se plaindre, ça pourrait être pire.
» J'allais le dire, mais je me répéterai alors. En France, on dit « je me défends aussi hein. ».
Oui, c'est vrai. Oh, ça va, je me défends, oui, c'est vrai.
Oui.
Exactement. Alors aujourd'hui, de quoi s'agira-t-il?
On a souligné récemment, Clotilde, le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, cette centrale nucléaire en URSS. C'est arrivé en avril, donc, 1986. Or, cette centrale, maintenant, est en Ukraine. Elle a toujours été en Ukraine, mais vous savez que l'URSS a explosé en 1989.
Oui.
Alors, l'Ukraine est devenue un pays, donc... C'est un roman inspiré de cette catastrophe. C'est pas le premier, d'ailleurs, il y en a eu d'autres. Il y en a quelques-uns, actuellement, qui... porte sur Tchernobyl. Mm-hmm. Ça s'appelle donc « Le cycliste de Tchernobyl ». C'est de l'écrivain espagnol Javier Sebastián.
Oh, que vous l'avez bien, le J espagnol.
Beaucoup, hein.
Oh là là!
Ça a paru en français en 2013. C'est tout petit, hein, c'est 205 pages. Mm-hmm. On peut le trouver au service québécois du livre adapté en format CD et on peut également le télécharger.
D'accord.
Donc, ce monsieur s'est inspiré de cette catastrophe, de cet accident, mais je préfère le mot catastrophe parce que ça en fut vraiment une. Et le narrateur est un fonctionnaire espagnol, justement, qui est à Paris. Pourquoi? Pour participer à une conférence sur les poids et mesures. Bon, ne me demandez pas trop ce que c'est, j'avoue que j'y perds mon latin. Mais ce monsieur-là va recueillir, un peu malgré lui, un très vieux monsieur, un vieil homme, qui est accompagné de deux sacs de vêtements. Et ce vieux monsieur-là, ben, on va apprendre que c'est Vasya Nesterenko, un physicien, qui a été dépêché à Tchernobyl lors de la catastrophe et qui, après main des bois, mais se retrouve à Paris. Alors là, le fonctionnaire ne sait plus quoi faire de lui. Il va l'amener en Espagne. Mais je dis tout de suite, Clotilde, que le récit va passer ou passe constamment du présent, donc avec le fonctionnaire espagnol, au passé, c'est-à-dire en 86. Et ça, ça crée des difficultés pour, je dirais, les gens qui écoutent un livre sonore. Et ça m'est arrivé, j'ai écouté 2-3 fois. Le problème, c'est que la lectrice ne fait pas de pause. Donc, on passe du fonctionnaire qui raconte l'histoire, c'est lui le narrateur, je le répète, et là, on va se retrouver à Pripyat. C'est une petite ville, une ville qui était à 3 km de la centrale de Tchernobyl. Mmh. et il n'y a pas de pause. Donc ça, ça peut créer une difficulté si vous écoutez le livre. C'est sûr que si vous avez le livre en imprimé, il n'y a pas de problème.
Oui,
il,
non, je comprends tout à fait.
Vous allez changer de paragraphe, ça va paraître visuellement. Mais quand on écoute un livre et que la lectrice ne fait pas de pause, ça c'est embêtant. Parce vous avez quelques secondes pour vous demander mais qui parle maintenant?
Exactement.
Mais ça ne m'a jamais paru aussi évident qu'avec cette lecture.
Quand je dis que c'est un art, la lecture.
Hein. Oui, c'est, et la lecture n'est pas mauvaise.
Non.
J'aurais apprécié qu'elle fasse des pauses à certains endroits. Parce que là, à un moment donné, on ne sait plus qui raconte.
Non, je comprends. On fera le commentaire. Je passerai le commentaire, Gérald, parce que je trouve ça intéressant. Il faut évidemment qu'on s'améliore. Ici, tout le monde ne demande que ça.
En quelques années, j'ai rarement parlé, disons, de la lecture des bénévoles. Ce sont des bénévoles, je le reconnais. Oui. Mais ce roman-là est au départ complexe. Donc, il aurait fallu, à mon avis, faire un petit effort, ne serait-ce que ralentir peut-être la lecture.
Oui.
Et on passe du présent au passé. Mm-hmm. Et on revient, bien sûr, à Pripyat, cette petite ville où... D'ailleurs, pourquoi on appelle ça le cyclisme? Ben, parce que dans cette petite ville de Pripyat, le physicien Vassia Nesterenko se promène à vélo.
Okay,
d'abord, pour échapper aux chiens errants, parce que les chiens errants sont un peu les maîtres de la ville, parce que la plupart des citoyens l'ont abandonné.
Oui.
Et aussi, entre les bâtiments abandonnés avec son vélo. Mais il y a quand même des survivants. Parce que les gens qui ont été irradiés ne sont pas bienvenus en dehors du périmètre de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à Pripyat parce qu'ils sont interdits de séjour ailleurs. Donc, ils reviennent dans cette zone-là qui est pourtant interdite, mais ils restent. Et c'est ça qui est touchant dans ce roman-là, complexe, je l'ai dit, mais c'est la part d'humanité. Parce que ces gens-là ont beau vivre dans une ville où ils ne devraient pas se trouver. Mmh. Ils sont irradiés, on le devine. Tout ce qu'ils mangent est irradié, l'eau est irradiée, mais ils sont farouchement décidés à rester debout. Et c'est ça qui est beau dans ce livre-là. Ils restent debout, ils savent qu'ils vont probablement mourir dans cette ville, mais c'est là où ils sont nés, c'est là où ils vont, comme on peut le trouver dans le livre, c'est là où ils veulent aimer, chanter, danser, etc. Et c'est curieux parce que ce n'est pas un roman de science-fiction, pas du tout. Ça raconte une catastrophe, celle de 1986. Et pourtant, j'ai pensé au livre « La route » de l'Américain Cormac McCarthy,
où
un père et son fils se promènent avec leur bagage, leur pauvre bagage, dans un paysage dévasté, on devine, par une catastrophe nucléaire. Eh bien, je me suis trouvé un peu dans cet univers-là. La ville, on devine, est affreusement endommagée, mais les gens qui sont là, eux, tiennent bon. Ils veulent résister. Ce sont vraiment des résistants.
Des résistants, hein. J'ai un petit extrait, si vous savez, on a pour habitude de faire cela. Regardez, je vais vous le lire, c'est même pas la peine que je vous le commente, évidemment pas. Alors, en commentaire de la photo d'une vache morte sur une route, Yakov Vassiliev a écrit « On devait d'abord boire beaucoup de lait, mais après, plus du tout. » Parce que le lait était contaminé. Les vaches mangent de l'herbe. Et on nous a dit que c'est dans l'herbe qu'il y a le plus de radiation. Buvez plutôt de l'eau, sans rien. De l'eau en abondance. Il faut hydrater le corps pour que les particules radioactives s'évacuent par la sueur et par l'urine. Et plus tard, ils ont dit que l'eau aussi était contaminée. Surtout celle des puits et des étangs. Ne prenez pas de mesures particulières. Continuez à mener une vie normale, comme avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Je leur ai demandé. Ils peuvent rien faire. Ils sont condamnés dans ce corps qui est déjà à toute fin utile mort. Enfin, je veux dire en devenir.
Le patient en question, lui, il va vraiment faire tout ce qu'il peut faire pour sauver les enfants. En fait, il ne peut pas les sauver, on le devine bien, mais il va étudier leur degré de radiation et il va en même temps se buter, bien sûr, au KGB, parce que n'oublions pas que nous sommes en 1986, l'URSS existe encore et le KGB aussi. Donc lui, il va contredire la désinformation du KGB et c'est en cela qu'il va se faire un ennemi mortel, le KGB. Mais n'empêche que le vrai physicien, Vassili Nesterenko, dont c'est un inspiré Sébastien, lui a survécu à Tchernobyl, il a survécu au KGB puisqu'il est mort en 2008.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand il erre sur les Champs-Élysées, il n'arrête pas de dire « ne les laissez pas me tuer », c'est ça.
Ne me laissez pas me tuer. Et j'écoutais et je me disais, qu'est-ce que ça donnerait au cinéma, ça? Je voyais le monsieur sur les Champs-Élysées, dans ce que les Français appellent un self-service, avec ses deux sacs de vêtements, et c'est là qu'il est, qu'il rencontre le fonctionnaire espagnol qui le prend en pitié. Mais c'est assez pathétique, mais en même temps, ce personnage-là est, je dirais, un pur. Et c'est ça qui est beau, encore une fois.
Oui, c'est
un, ce personnage d'une grande pureté.
Et je lisais dans une critique parue dans Libération en septembre 2013, justement, puisqu'on parle des Champs-Élysées, je ne sais pas quel est le critique qui écrivait, il y a dans le cycliste de Tchernobyl quelque chose qui tient du tour de force, cette capacité à relier la centrale folle diffusant sa radioactivité et l'avenue, prétendument la plus célèbre du monde, à faire tenir ensemble des mondes si différents et à fabriquer un roman finalement de facture classique et cependant d'une évidente originalité.
Et je n'ai pas dit une chose très importante, c'est que dans le roman, non seulement on passe du passé au présent, mais le roman lui-même est émaillé de données scientifiques.
Ah, ok.
Et même, l'auteur va même citer des rapports de l'ONU, mais ça passe. Ça passe bien parce que ça colle évidemment au texte. Mm-hmm. Donc, on est entre la fiction et la réalité, puisqu'on devine que les rapports sont authentiques. Mm-hmm. Alors, et entre autres choses, combien de gens, malheureusement, sont morts de Tchernobyl? On ne le saura peut-être jamais.
Non, peut-être pas. Mais écoutez, Gérald, c'était fort intéressant de venir évoquer ce triste anniversaire, donc ce 30e anniversaire.
Je voudrais, Clotilde, si tu me permets, ça vaut la peine de faire un effort malgré la lecture pas de pause, parce que le roman en vaut vraiment la peine.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Gérald.
Au plaisir.
Gérald, qu'on retrouvera certainement pour la toute dernière émission de la saison en juin prochain.
Ah, bien sûr.
C'est un rendez-vous, hein?
Oui.
Allez, bonne journée, Gérald.
Au revoir.
This is how the world will be. Everywhere I go, it rains on me. 40 monkeys drowning in a boiling sea. Everywhere I go, it rains on me.
Ça vous dit quelque chose, hein? Yves Boisvert, bonjour.
Oui, bonjour.
Yves. Oui, bah, écoutez, oui, quand vous avez cité cette chanson-là dans ce livre, PAS, pour lequel je vous ai invité, même s'il n'est pas de la première jeunesse, maintenant, il est enregistré. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, j'ai dit, on va lui faire entendre quelques mesures
c'est très gentil.
De Tom Waits.
Et toujours agréable de Tom Waits.
Oui. Et est-ce que ça s'écoute bien pour faire de la course? Non, pas vraiment.
Ouais, mais non. Là-dessus, j'ai une philosophie un peu aux antipodes de... j'en écoute rarement maintenant. Mais quand j'en écoutais ou quand j'en écoute encore, parce que ça m'arrive, je n'écoute pas de la musique dite de course, c'est-à-dire avec un beat très...
Non, c'est ça.
Battant et puis quelque chose qui vous fait aller vite. J'aime mieux des trucs plus planants, plus...
La passion selon Saint Matthieu, mesdames et messieurs.
Oui.
Et là, je ne niaise pas. Je ne niaise pas. Il en est question dans votre livre.
C'est vrai, j'avoue.
Alors, Yves Boisvert, que vous connaissez évidemment comme chroniqueur, journaliste à la presse, à la télévision. Yves Boisvert, est-ce que c'est vous qui faites courir maintenant tous les journalistes et chroniqueurs de la presse ou c'est eux qui vous ont amené? Parce qu'attendez, Marissal, Suzanne Colpron.
Ça, c'est des gens qui couraient bien avant moi.
Ah, OK, d'accord.
Ouais. Et il y en a d'autres aussi. Et certains d'entre entre eux ou elles, avaient couru avec un entraîneur avec qui je m'entraîne maintenant, qui s'appelle Doris Langlois. Mais donc, non, à la presse, je ne peux pas dire que j'ai créé beaucoup de vocations. Il y avait déjà un contingent important.
Et vous en avez créé beaucoup de la vocation, sinon? Vocation de
ben,
coureur?
C'est difficile à dire, mais je vous dirais, je faisais à la blague dans ce livre-là, je disais, si au moins une personne, si une seule personne, après avoir lu ce livre, se met à courir, ce serait un échec épouvantable. Il en faudrait au moins trois. Là. Mais donc, ça m'est arrivé. Ça, je vous avoue que c'est un des grands plaisirs de ce livre-là, que des gens, je sais pas, une dame que je rencontre après une course de 5 km à Ville-Saint-Laurent, ou, qui me dit, Monsieur Boisvert, j'ai lu votre livre, je suis venu courir cette course-là. Ça fait ma journée et ma semaine.
Ben oui. Écoutez, j'ai une grande amie qui s'est mise à la course il y a maintenant quelques mois. Mm-hmm. Et je lui ai dit que je vous recevais. Alors là, elle aurait pu me faire 30 questions. Ah, dis donc, demande-lui. Alors, j'ai dit, non, écoute, ma chérie, on va peut-être pas commencer ça. Par contre...
on peut faire une série.
Par contre, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a quelques jours, je lui ai dit, et puis la course, comment ça va? Ben, elle me dit, écoute, je comprends rien. Elle me dit, je sais pas ce qui arrive. Elle me dit, tout d'un coup, ça m'ennuie.
Ah.
Alors, j'ai dit, mais ça t'ennuie. Ben, elle dit, tu vois, là, l'autre jour, bon, il a fallu que je me botte les fesses, mais ça arrive souvent, surtout le matin à l'aube, hein, comme vous le dites. Genre, quand il ne faut pas réveiller personne.
Non,
bon.
C'est ça.
Mais elle dit, là, et le pire, elle dit, j'ai couru 7 km assez facilement, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est d'un ennui mortel. Elle dit, j'avais tellement hâte de rentrer. Ben, j'ai dit, écoute, je vais lui en faire part. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ben, d'abord, il faudrait... moi, j'aurais 30 questions à lui poser. Il faudrait analyser le cas plus en détail, mais c'est sûr que c'est pas toujours des sorties glorieuses. Hein? Il y a des jours où, d'abord, on n'a pas de jambes,
qu'est-ce
qui se passe. C'est pas l'extase perpétuelle.
Non.
Mais
non.
Disons que si au moins après... on a un sentiment de bien-être, on a, à la longue, on sent plus de vitalité. Murakami, dans son livre, parle de ça, du sens, de sentiment de vivre plus, avec plus d'énergie, en fait, plus pleinement. Ben là, on accepte que certains jours, soit tout à fait ordinaire.
Oui.
Alors, j'ai pas de prescription particulière, disons, il y a des trucs du genre changer de parcours. On est un peu comme des lièvres. On est facile à attraper. On a juste à mettre les collets aux bons endroits. Ouais. On prend toujours les mêmes rues. Ouais. Donc, se surprendre par un nouveau tracé. Ouais. Des fois, c'est de courir avec quelqu'un aussi. Mais évidemment, une des choses qui est bien avec la course, c'est qu'on n'a pas besoin de donner rendez-vous à qui que ce soit.
Non, c'est ça.
Mais des fois,
sûr.
Ce genre de choses-là, casser la routine, ça peut renouveler là-dedans comme dans d'autres domaines.
Alors, courir avec quelqu'un, elle m'attend. Non, parce qu'elle s'est dit, ah, écoute, là, si tu croises Boisvert... J'ai mis un petit peu de pression parce que je lui ai dit qu'après avoir reçu Mme Bordelot, je m'étais mise à la méditation. Alors, je ne sais pas si je vais me mettre à la course. Mais en tout cas, il y en a un, et je ne sais pas si c'est vrai, parce que votre livre démarre sur les chapeaux de roue avec une préface évidemment délicieuse et charmante et drôle de Marc Labrèche, qui dit que lui, il a repris goût à la course grâce à vous. C'est vrai ou...
Oui, c'est plutôt vrai. Enfin, ce qu'il raconte est vrai. On a fait sortie qu'il raconte.
Pauvre petit loup, il n'en peut plus. Au bout de 5 km, il est dans un état. Et alors, il y a mon Boisvert, évidemment, qui lui dit, puis, ça va bien. Et l'autre qui lui répond, je force pas du tout. Il n'en peut plus. En tout cas, c'est vraiment très, très drôle. Et ça part ce livre dont je vous redonne le titre, PAS, Chronique et Récit d'un coureur, écrit par Yves Boisvert, que j'accueille aujourd'hui. Ce n'était pas votre première tentative. Vous aviez déjà couru, entre autres, en Acadie, avant de vous en parler.
Ils ont joggé comme ça, l'été, une demi-heure ici et là, mais sans aucun projet de faire ça de façon structurée.
Bon. Mais vous avez le physique d'un coureur.
Ouais, le physique, c'est trompeur, ça se développe, le physique.
Oui,
vous verriez des marathons, là, évidemment, on a une image du Kenyan, de la personne effilée, qui n'a pas beaucoup de gras. C'est bien sûr que ça court mieux, plus léger. Mais vous seriez surprise de voir des gens de plutôt costauds. Des gens. Il y a tous les formats.
Il y a tous les formats.
Il y a tous les formats. Et c'est surtout d'habituer son corps à la course.
Mais c'est son corps,
je ne parle pas de l'apparence physique, je parle des muscles, des tendons. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement.
Oui, parce qu'on a tous peur des blessures, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est quasiment à la fin du livre. Ah ben tiens, je tombe dessus en page 203. Vous dites, oui, mais n'allez pas croire non plus ceux qui diront que la course est dangereuse. La sédentarité est bien plus risquée.
Exactement, oui. Il y avait cette excellente citation d'un cardiologue dans le magazine qui est un peu la Bible. Des coureurs ou, disons, le playboy des coureurs, des amateurs de course à pied qui s'appelle Runner's World. Et il disait justement sur la question des dangers, parce qu'il y a eu des morts des fois. Hein? Et
il disait, écoutez,
si votre objectif est de survivre à la prochaine heure, étendez-vous dans un lit seul et bougez pas. Pour la prochaine heure, c'est la meilleure stratégie de survie. Mais à long terme, vous êtes mieux de courir.
Exactement.
Et vous pouvez subir un infarctus en regardant la télé.
Oui.
Et donc, la sédentarité est bien plus risquée. Évidemment, pendant qu'on fait un exercice, on fait courir des risques à son corps. On le met sous un stress, on peut se blesser. Mais c'est comme ça qu'on se protège à long terme.
Est-ce que la marche à pied, c'est peut-être une bonne prémisse
pour courir? Ben d'abord, là, je vous mets en garde tout de suite. Là, je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que je vous dirais, c'est que pour commencer à courir, il faut commencer effectivement marche-course. Quelqu'un, disons, là, qui n'est pas en grande forme, là,
qui a un petit surplus de poids,
Il ne faut absolument pas commencer de façon...
Non, drastiquement, c'est sûr.
Mais on a le goût.
On a le goût
de brûler les étapes. Mais c'est la marche-course qui est recommandée. Une minute de marche, une minute de course, tranquillement, pas beaucoup, pas loin, et le lendemain un peu. Et ne pas augmenter les volumes trop vite non plus.
Plus sérieusement, parce que bon, là, on a commencé beaucoup par du rire, mais on peut difficilement, et de toute façon, c'est vous qui l'évoquez au début du livre, ne pas parler de la course sans évoquer votre frère.
Oui, effectivement.
Et la disparition, malheureusement, il est parti beaucoup trop vite.
Non, mais il n'est pas mort. Il a failli partir.
Ah, il a failli partir,
c'est ça.
Pardon.
Et lui, il a fait un infarctus.
Hein. OK,
exactement.
D'accord.
Okay. C'était mon père qui était... Mon père est mort d'un infarctus, mes grands-parents aussi.
Mais tard.
Pas tous, enfin,
non, ça.
Mais donc, mon frère, assez jeune, quand même à 56 ans, a fait cet infarctus. Et pour se remettre tranquillement, le médecin lui a dit, écoute, il faut que tu fasses un peu d'exercice, commence à courir. Lui aussi, justement, trouvait ça ennuyant. Et c'est un autre truc que je refile à votre ami. Écoute, je vais m'inscrire à une course. Ça va me faire un objectif. Donc, c'est inscrit aux 10 km du Marathon de Montréal. Et quand j'ai vu ça, mon grand frère, qui l'année d'avant était presque mort,
c'était majeur
son infarctus, qui s'inscrivait à une course, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là-dedans? Sans lui dire, je me suis inscrit, j'ai commencé à m'entraîner. J'étais capable de courir cette distance qui, pour moi, était absolument phénoménale. et donc, je me suis entraîné un peu, puis je lui ai dit, écoute, tu es inscrit, on va la courir ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et je me souviens très bien de la première fois que j'ai franchi 10 km. Je me suis dit, bon, c'est parfait. Il n'est pas question pour moi de faire un 15 km, un demi-marathon, un marathon. Je veux rien savoir de ça. C'est 10 km, merci, c'est fini. Là, j'en ai fait un autre, mais un autre. Et au bout de cette année-là, d'abord, j'ai trouvé mon rythme qui faisait en sorte que pendant que je courais, j'avais du plaisir, au moins de déplaisir. Parce qu'au départ, quand on commence, on ne connaît pas son rythme.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, vous en parlez aussi très bien. Au début, on ne parle pas beaucoup de plaisir quand même. Hein?
Non, pendant. Et une des raisons pourquoi c'est pas plaisant, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse courir.
Non, c'est
on n'a pas de référence.
Exactement.
Alors, on part et puis on est épuisé. Moi, à peine rendu au coin de la rue, il fallait que je m'arrête pour marcher.
Ouais.
Et donc, c'est pas particulièrement agréable.
Ben non, c'est sûr.
Mais donc, après un certain temps, le corps s'habitue. Nous, on sait où se situer. Et là, on peut en tirer un plaisir pendant et non pas seulement après.
Alors, le plaisir après.
Oui.
Parce que là, moi, j'en entends parler. Écoutez, j'ai l'impression qu'on me parle quasiment après l'orgasme. C'est ni plus ni moins.
Ni plus ni moins. Ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça? Ah oui, bon? Parce que justement, j'allais vous demander de me le décrire. Mais alors, du coup, bon, OK.
Mais non, s'il y avait à choisir, à faire un choix définitif entre les deux, je laisserais tomber la course.
Ah, OK, vous m'avez fait peur.
Mais... Effectivement, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur ça. Ça provoque un déclenchement hormonal de dopamine, etc.
Oui,
encore là, il faudrait que vous interviewiez un vrai spécialiste, mais qui est associé à des opiacés. Ça a un effet de dopant. En fait, pas juste la course. En fait, tous les sports d'endurance, ça provoque un bien-être naturel, mais qui est produit par le corps. Mais qui est qui vous met dans un état un peu rassurez-vous, vous pouvez conduire votre véhicule après, un état de bien-être et de relaxation qui est mesurable scientifiquement. Là. Donc c'est cette espèce de high ou de ça existe vraiment.
Êtes-vous un genre moine? Ça veut dire que non seulement vous courez, mais là vous ne buvez plus du tout, vous mangez santé,
Non. Donc quand je fais des marathons, alors là je m'impose disons 3 semaines, 1 mois sans alcool.
Oui, OK.
Mais c'est pas obligatoire.
Non.
C'est simplement, mais rassurez-vous, après, je rattrape le temps perdu.
C'est vrai.
Non. En fait, je crois que la course à pied, c'est pour faire des abus avec moins de conséquences.
Mais c'est ça. Alors, justement, pourquoi courir?
Ben, justement, parce qu'on se sent bien, on devient dépendant. Les bienfaits d'énergie. Moi, à l'âge avancé, que j'ai 52 ans, je me sens beaucoup plus en forme que quand j'avais 35 ans.
Et là, forcément, je vais finir. Non, vous les faites pas.
Ouais, ben c'est ça. À la radio, ça paraît pas du tout.
Enfin, bon, de toute façon, on vous connaît quand même.
Donc, c'est d'abord pour ça. C'est d'abord, je vous dirais, pour l'état mental, plus que quoi que ce soit de physique.
Surtout pas la performance.
C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que je ne fais pas ça pour la performance. Je mesure mes performances. Oui. Je veux faire mes meilleurs temps.
Oui.
Et donc, ça aussi, un plaisir là-dedans. Tout le monde ne partage pas. Là. Mais pour moi, ça fait partie de la motivation. Ah, j'ai une course telle date, je vais essayer de faire tel temps.
Et j'ai eu tellement de mal à vous croire. D'ailleurs, je l'ai écrit « Comment vous croire ?» et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Quand je vois, parce que là, je vous vois, moi, un côté de moi, cet homme qui maintenant court des marathons, vous décrivez « J'étais une roche avant ». Et là, il précise « Et j'ai des témoins. Je vous jure que j'étais une roche. » dit Yves Boisvert, et voilà que j'avance.
Mais écoutez, j'étais une roche... Oui, c'est-à-dire que j'ai pas de prédisposition sportive. La course, c'est un peu la revanche des nuls dans le domaine du sport. Beaucoup de gens qui... Je me rappelle très bien au secondaire, il y avait des épreuves de tout le monde devait passer ça. Il y avait des épreuves de force, de course, sortes. Et il y avait on vous classifiait, vous avez excellence, or, argent, bronze. Ouais. Et moi, dans aucune discipline, dans quoi que ce soit, j'ai même eu le niveau bronze. Alors, j'étais médiocre. Mais on peut développer ça. Et c'est ça qui est agréable. Et surtout quand on commence à un âge avancé, on s'améliore encore.
Alors, je vais les sortir, les maudites espadrilles.
Mais oui.
Je vous remercie beaucoup, Yves Boisvert, d'être venu.
Merci de l'invitation, c'est très gentil.
Oui, et ne partez pas sans me signer mon livre.
Avec
c'était Yves
plaisir.
Boisvert. Et le livre PAS est maintenant disponible en audio via le SQLA. Ne le manquez pas. Merci beaucoup, Yves Boisvert.
Merci à vous.
Vous écoutez Des livres plein les oreilles avec Clotilde Seille et ses invités. Et je vous propose, de partir à la recherche du temps perdu.
Je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend.
se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin. D'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin.
Oui, ça fait des vites à l'époque comme ça. C'était Dave, écoutez, un vieux souvenir. C'était quoi? C'était les années 70 à peu près. Et c'est pour nous replonger dans l'univers, croyez-le ou pas, mais de Marcel Proust. Pourquoi? Eh bien, c'est la chronique des nouvelles et des livres. Et j'ai lu, il y a, je sais pas, une semaine ou deux, dans les journaux, un article qui venait de Paris, de l'agence France Presse, et qui nous disait que des lettres rares, adressé à son père, des manuscrits parfois inédits, des dessins, des portraits de famille. Eh bien, c'est l'univers intime de l'écrivain français Marcel Proust qui sera mis aux enchères à Paris à la fin du mois de mai, le 31 mai plus précisément. Au total, plus de 120 photographies, des dessins, des livres, des manuscrits, des lettres et autant de témoignages sur les amours, les amis et le travail de l'auteur de la suite romanesque À la recherche du temps perdu, mort en 1922, qui seront donc mis à l'encan par l'arrière-petite-nièce de l'écrivain. Elle s'appelle Patricia Mante Proust, âgée de 41 ans. Voilà, la totalité de la collection est estimée, tenez-vous bien, quand même entre 520 000 et 740 000 euros pour toutes ces pièces de Marcel Proust. Ça va, donc 520 000, je vous dirais, c'est à peu près 750 000 dollars jusqu'à à peu près 1 million de dollars. La collection renferme de nombreuses photographies. Il y a des portraits de famille, dont plusieurs représentent Marcel Proust lui-même, mais aussi des portraits de ses amis amants, notamment l'auteur Lucien Daudet, le pianiste Reynaldo Hahn. On trouve aussi l'un des portraits les plus célèbres de Marcel Proust, où l'écrivain, alors âgé d'environ 17 ans, pose en pied. Au recto, une dédicace de Lucien Daudet à son cher Marcel. Cette photo, rien qu'elle, elle est estimée entre 4 000 et 6 000 euros. Il y a aussi une autre photo qui montre l'écrivain entouré de Lucien Daudet, couvrant Marcel d'un regard langoureux, l'avant-bras reposant sur son épaule, et puis de son ami Robert de Flers aussi. Et on sait que sur l'insistance de ses parents, Marcel Proust devra récupérer tous les tirages de cette photo prise en 1896 pour empêcher, tenez-vous bien, à l'époque il n'y a pas encore les réseaux sociaux, pour empêcher la circulation de cette image jugée compromettante. Estimation de cette photo, entre 5 000 et 8 000 euros. Pour les amateurs du genre, il y a aussi une édition originale de Du côté de chez Swan, le premier tome de la recherche, qui a été publié en 1913. Elle est estimée entre 20 000 et 30 000 euros, autrement dit entre 27 000, 28 000 dollars jusqu'à 45 000 dollars. C'est un véritable trésor, évidemment, hein, pour les Proustiens. Et c'est en grande partie en plus. Ah oui, il y a aussi ça. Alors, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui était le deuxième tome, Eh bien là, c'est en grande partie manuscrit, imaginé, raturé, corrigé par l'auteur, et c'est estimé entre 20 et 25 000 euros à l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui auraient dû sortir en 1914, mais la guerre en a retardé la publication. Comme le prouve le placard mis aux enchères, Marcel Proust profita de ce délai pour corriger abondamment son texte, et rappelons que le roman fut couronné par le prix Goncourt en 1919. Et parmi les lots les plus émouvants, il y a deux des trois seules lettres connues de Marcel Proust à son père, qui ne concevait pas que la littérature puisse être un métier. Alors, écoutez, comme j'imagine, tout comme moi, vous ne pourrez pas être à la vente aux enchères de tous ces artefacts de Marcel Proust. Au moins, aurais-je peut-être donné l'envie de retomber dans sa littérature. Alors, je suis allée voir ce que nous avions en banque, c'est le cas de le dire, à la BANQ, donc via le SQLA. Alors, bien sûr, à la recherche du temps perdu est là, c'est-à-dire les trois tomes du côté de chez soi. À l'ombre des jeunes filles en fleurs et le côté de Guermantes. Ça, c'est au SQLA, hein, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi d'autres ou d'autres livres sur Proust. Par exemple, de George Duncan Painter, P-A-I-N-T-E-R, ça s'appelle simplement Marcel Proust. Ou encore Marcel Proust à 20 ans, Le temps de la recherche, de Jean-Pascal Mathieu. De Céleste Albaret, ça a été enregistré ici chez Vues et Voix l'an dernier, donc voyez-vous, c'est très récent. Et de Céleste Albaret, ça s'appelle Monsieur Proust. Également d'Hélène de Billy, Proust à Sainte-Foy. Et puis à l'Inca, on a le droit à un livre de Pierre-Yves Leprince. Ben, il y en a quelques-uns aussi qu'on retrouve et au SQLA et à l'Inca, mais celui-ci, il n'est qu'à l'Inca. Ça s'appelle « Les enquêtes de Monsieur Proust » et c'est de Pierre-Yves Leprince. Voilà, pour Marcel Proust, on s'en va maintenant à la bande-annonce. Et là, je vous avouerai que je prends un petit risque parce que la semaine prochaine, je n'ai pas réussi à avoir encore la totale assurance, confirmation que ma prochaine invitée sera des nôtres. Il s'agit de José Di Stasio. J'ai eu envie de l'accueillir pour plusieurs raisons. D'abord, elle a un lien avec Vues et Voix puisque son papa, ai-je appris récemment, a été lecteur bénévole ici chez Vues et Voix. Ensuite, eh bien, les livres, peut-être pas tous, mais trois livres de José Di Stasio ont été enregistrés et sont donc disponibles via le SQLA. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas parler à José Di Stasio? D'abord, de son état de santé. Je vous rassure, apparemment, et entre autres, tous les chroniqueurs en ont parlé, elle est dans une forme maintenant splendide après ce foutu cancer du sein qui l'a tenue loin des caméras, hein, quand même, pendant 2 ans. Elle a dû subir 3 chirurgies, elle a dû prendre des décisions, hein, on peut l'imaginer, comme toutes les femmes qui passent par cette fichue maladie, d'ailleurs toutes les femmes et tous les êtres humains, hein, qui un jour en sont atteints. Il y a, comment elle s'appelle, Émilie Bilodeau dans la presse qui nous parle, entre autres, de ce carnet rouge qu'elle viendra nous présenter, qui fait partie des livres qui ont été enregistrés. Et elle nous dit, Madame José Di Stasio, que l'idée de départ de ce carnet rouge, c'était surtout de regrouper des recettes pour la plupart déjà parues dans les 3 livres ou diffusées à la télé, mais dans une simple brochure. Alors, elle les aurait offertes à ses amis et à ceux de Mario Mercier, qui est le graphiste avec qui elle a travaillé sur 3 de ses 4 livres. Alors, elle en a parlé à son agent, à ses amis. Et les uns et les autres lui répondaient qu'ils aimeraient bien en commander pour eux et aussi pour leurs amis. Alors, ils se sont dit, bah, coudonc, si ça intéresse autant de gens. Alors, elle a laissé la phrase en suspens. Et alors, de là, elle a plongé dans la rédaction de ce 4e ouvrage, ayant comme point d'ancrage une couleur et non une recette, comme à l'habitude, parce que José Di Stasio voulait s'inspirer du rouge. Alors, il en résulte un carnet plus petit que ses derniers livres, qui est doté d'une couverture en carton épaisse, recouverte d'un tissu rouge vif. On pourrait presque confondre ce bel objet avec un journal intime. D'ailleurs, l'auteur affirme elle-même que les recettes qu'on y trouve sont pour les périodes qui entourent le temps des fêtes, pour les mois plus froids d'automne et d'hiver. Alors, j'ai bien hâte de voir si elle sera là pour nous en parler la semaine prochaine ou pas. Elle qui accueille très, très volontiers du monde. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais les gens qui font de la cuisine comme ça, est-ce que réellement, lorsqu'ils ont des hôtes à la maison, est-ce qu'ils sont bons, tu sais, est-ce qu'ils font vraiment Non, mais tu sais, est-ce que c'est du genre à faire des choses simples ou est-ce que c'est du genre... J'ai l'impression qu'avec elle, c'est quand même pas mal simple. Alors, José Di Stasio, qu'on retrouvera peut-être la semaine prochaine avec un grand plaisir. Et écoutez, croisons-nous les doigts, je ne sais pas, comment on dit, c'est quoi l'expression? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la corde à linge? Il faut mettre quoi sur la corde à linge lorsqu'on... voyons, c'est quoi? Ah bah oui, mais toi, tu es peut-être trop jeune. Il y a une expression québécoise que j'aime beaucoup. C'est ça qui nous dit qu'il faut mettre quelque chose sur la corde à linge pour espérer qu'il arrive de quoi. Alors, espérons que Mme Di Stasio sera des nôtres. Sinon, bah écoutez, comptez sur moi pour de toute façon ne pas arriver les mains vides à la prochaine émission. Bon, après Mme José Di Stasio, je sens qu'il va être question, et ça n'a rien, mais alors rien à voir, de baleines, de fleuves et de dauphins avec l'ami Gérard Saint-Denis. Bonjour, mon Gérard.
Bonjour, madame. Et je dois vous dire que c'est le chapelet qu'on met sur la corde.
Ah, c'est le chapelet qu'on met
corde. Mais oui. Et je peux vous dire que si je vous invite chez nous, ça va être très simple. Je vais vous faire une fondue aux tomates.
Oh!
Facile, facile, facile.
Une fondue aux tomates.
Ça se fait facilement. Ça se fait en un clin d'œil. On se trompe pas. Il faut en faire plus parce que les gens en raffolent.
Ah oui, hein?
Si vous voulez, une bonne fois, je vous enverrai la recette.
D'accord.
Vous en parlerez à vos gens.
D'accord. On en parle. D'accord, j'en parlerai à mes gens, comme vous le dites.
Oui.
Alors, aujourd'hui, vous arrivez...
On parle un peu des baleines.
Oui.
Je parle des baleines, je ne sais pas pourquoi. J'avais un goût de voir ça. Je parle des baleines, des dauphins, puis du fleuve. C'est que, bon, avec l'arrivée du printemps, puis tout ça, on est... Mm-hmm. Puis l'été qui s'en vient, on est plus près de la nature, me semble. C'est le fun.
Ah, oh, oui.
J'ai trouvé ce livre, au SQLA, qui danse avec les baleines, là,
mm-hmm.
d'Anne Collet.
OK.
C'est une spécialiste, c'est vraiment les mammifères.
Ah, OK.
Marins.
Mm-hmm.
Une brillante biologiste, mais elle écrit d'une façon très simple, très facile à comprendre.
Mais c'est OK.
Elle me fait penser à Radio-Canada, c'est lui qui parle d'économie, là, dont j'ai oublié le nom tout à coup.
Là. Oh là là, d'économie.
Il est très
bon
parce qu'il explique facilement des affaires complexes. Et c'est ça qui est intéressant quand on lit un livre comme ça, on aime ça. Et il y a de l'émotion, il y a du partage d'expérience, et c'est pas mal de fun. Ça se lit très, très bien.
Bon, alors, attendez, on va le redire doucement pour les gens qui nous écoutent.
C'est OSQLA, Danse avec les baleines, de Anne Collet, C-O-L-L-E-T.
Parfait. Parce que sinon, là, il y a des gens qui nous disent qu'on le dit trop vite. Dis-donc, est-ce que c'est Gérald Filion dont vous parlez?
Oui, c'est ça, c'est Gérald. Il est tellement agréable à écouter parce qu'il nous explique ça, on comprend tout de suite.
Oui.
Oui, j'aime tout ça, très bon, très, très bon. Il y a cette qualité-là. Il y a un peu comme Séguin avait pour les sciences.
Oui. Mais, et puis en plus, est-ce que vous savez qu'il a fait un livre en plus, Gérard Filion?
Non.
Ben oui, apparemment, il aurait fait un livre. Ah, j'ai mon pitonneux de Jean-Sébastien La Liberté qui s'est rué sur l'ordinateur. Il va essayer d'aller voir.
Je vais prendre note le temps que je vous parle. Le deuxième livre,
oui.
Bon, je crois, c'est La baleine dans tous ses états.
Mm-hmm.
On trouve ça à l'Inca. C'est par François Garde. C'est un texte à la fois qui est un peu poétique et savant, qui est un peu... qui propose un peu un voyage autour du monde,
ouais.
Mais dans l'histoire de découvrir le cétacé à travers la littérature.
Okay.
C'est léger, même si c'est de la baleine. c'est très, très léger. Mais je trouve ça intéressant. Ben ça nous fait vivre des expériences. On rêve un peu. Moi, je rêve beaucoup. Quand j'écoute des livres, je me ferme les yeux puis j'embarque, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est, surtout la lecture sonore, elle a l'avantage d'être capable, on est capable beaucoup plus de rêver qu'avec la lecture ordinaire.
Oui.
Ça, je pense à ça. On est avantagé là-dessus, même si on a des problèmes de
oui, je comprends.
Mon autre choix, c'est le fleuve. Le fleuve de Jean O'Neill, c'est parce que c'était beau, c'est beau le fleuve. Moi, j'ai fait, je vous dis ça en passant, j'ai fait de Québec à l'entrée du Saguenay, de la rivière. Et après ça, je suis allé jusqu'à la baie avec une chaloupe de 17 pieds, avec un petit moteur de 9 forces. J'ai fait ça dans 8-10 jours en faisant du camping sur le bord, etc. Et j'ai vu que c'était le fleuve, le vrai fleuve.
C'est splendide.
Oui. C'est beau. C'est beau. C'est bien intéressant. C'est O'Neill. Jean O'Neill, vous le connaissez, il écrit des belles choses. C'est un gars très, très facile à lire.
Aussi, oui, c'est ça.
Après ça, il y a, j'ai pris un livre chez AVH, là, Ce que savent les baleines, de Carcucci, Cacucci, C-A-C-U-C-C-I, Pino Cacucci, l'auteur. C'est arpentant la basse Californie, dont les côtes sont remplies de baleines grises, de grosses baleines grises.
Oui, oui.
Et c'est ça qu'on parle. On en parle de toutes les formes, les historiques, etc., qui vont jusque sur les côtes mexicaines.
Avant qu'on passe, parce qu'on a un dernier petit sujet, je voudrais aussi, si vous me le permettez, vu qu'on a un petit peu de temps, Gérard, je voudrais reciter le livre de Sylvie Drapeau. Vous savez, Sylvie Drapeau est venue nous parler de son livre il y a quelques semaines à cette émission-là. Ça s'appelle Le Fleuve. C'est une toute petite plaquette.
Oui, et, ah ben, mon Dieu.
Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Gérard.
Parle-nous-en, chère dame.
Ben écoutez, justement, c'est ce que je fais là. C'est le genre de petite plaquette de 70 pages.
Ah, qui se lit très rapidement.
Oh, ça se lit très rapidement, mais ça vaut le coup de le lire en douceur. Exactement. Okay. Je dirais même avec longueur, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que si vous allez trop vite, vous allez perdre toute la poésie même de, parce qu'on dirait que chaque mot est à sa place. On sent qu'elle a travaillé ça, puis d'ailleurs elle me l'a confirmé quand elle est venue ici, elle a travaillé ça très très fort, quoi. Alors c'est un bonheur de bouquin. Alors quand j'ai vu que vous nous parliez aussi du fleuve, j'ai dit il faut à tout prix que je revienne sur Le Fleuve de Sylvie Drapeau, qui a été donc présenté ici il y a quelques semaines maintenant. Voilà.
Merveilleux.
Et qu'il faut à tout prix que vous vous procuriez. Et si vous n'avez pas entendu l'émission, Gérard, allez retourner sur le site de Canal M. Parce qu'en plus, cette fille est tellement charmante. Elle est d'une humilité. Enfin, c'est quand même une des plus grandes comédiennes que nous ayons au Québec.
Oui.
Et elle est aussi humble dans son métier de comédienne que dans son métier d'auteur. Et vraiment, c'est un de mes grands, grands moments. À cette émission-là. Voilà.
Merveilleux qu'on puisse le partager à nouveau.
Alors, écoutez...
Je termine en vous parlant du décès de Marcel Dubé. Je ne peux pas faire autrement. Pour les plus vieux et plus âgés qui nous écoutent, là, ils vont se souvenir d'un simple soldat. Ils vont s'en rappeler, ils vont se souvenir de cette fameuse... de le temps des Lilas. C'est une série d'émissions qui a été faite par lui. Ils vont se souvenir aussi de Zone, qui est une intrigue fantastique autour de jeunes contrebandiers. C'était le début du théâtre. Moi, c'était le... Je sais pas si vous... Ceux qui vivaient, ceux qui nous écoutent vont s'en rappeler, les plus âgés. C'était le théâtre Alcan.
Oui.
Dans le cadre du théâtre Alcan le dimanche, on n'avait pas tout le monde en parle, c'est ça qu'on avait appelé.
Oui.
Il y avait deux postes.
On découvrait.
Tout le monde écoutait ça.
Est-ce que c'était la soirée, comment, les beaux dimanches qu'on appelait ça?
Oui, peut-être, oui, les beaux dimanches, oui, c'est ça. Oui.
Hein, c'est ça, hein? Voilà.
C'est ça, les beaux dimanches. Et puis, il y a eu. Écoutez, ça a joué en 1953-1956, c'est le début de la télévision.
Ben oui.
C'était le début de la télévision.
Exactement.
Et c'est dommage que Marcel Dubé, lui, il est connu comme du théâtre. Et c'est pas toujours facile pour les gens de lire du théâtre.
Non, c'est vrai.
Comprendre ça.
Non.
Là, on souhaiterait, quand on écoute ces livres-là, on souhaiterait qu'il soit 3-4 personnes.
Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais ce serait, là, ça prendrait un plus grand studio.
Ah, oui,
c'est ça le problème. Gérard, on va se quitter parce que oui. c'est déjà l'heure, mais je voudrais juste que vous sachiez que malheureusement, les deux livres, parce qu'il y en a eu deux, de M. Filion, ne sont pas disponibles au SQLA. On n'a pas vérifié à l'INCA, par exemple, mais on ne sait jamais, peut-être qu'ils le sont à l'INCA. Alors, allez voir.
Mais... Je termine sur une chose quand même pour la prochaine émission qu'on va faire, qui va être nos livres d'été.
Oui.
Je veux que vos anges, que nos auditeurs là, fassent un gros effort pour aller s'abonner à l'AVH.
Oui.
Ça coûte rien. Vous envoyez votre attestation de vision en attaché. Vous attendez deux semaines, vous recevez un numéro de confirmation, puis là, vous allez avoir le d'aller chercher 20 livres à tous les 15 jours.
Ben oui, vous avez...
Vous allez avoir accès à de très, très beaux livres récents.
Oui, eh bien, vous avez raison de nous en reparler et je compte sur vous pour nous en reparler encore à l'occasion de la dernière émission de la saison. Ce sera le 9 juin prochain.
J'ai 4 livres, j'en avoir 7-8.
D'accord.
J'en ai 4 qui viennent de j'ai choisi
d'accord.
la Bretagne.
Il faut qu'on se laisse, Gérard.
Bye-bye.
J'ai encore trop de livres à présenter. Je vous embrasse. Au revoir, Gérard.
Bye bye.
Gérard Saint-Denis. Alors, voici quelques titres en rafale pour vous. Demir Kusturica, le cinéaste. Nous avons ici 6 nouvelles qui se déroulent en Bosnie-Herzégovine durant les années 70, au temps où règne l'influence du parti jusqu'à l'éclatement de la Yougoslavie. Ce livre s'appelle « Étranger dans le mariage ». Ça vient de sortir au SQLA. La critique est un peu aisée, dans la mesure où l'on rencontre des personnages qui oscillent constamment entre pathétique, fausse naïveté, héroïsme, et au cœur d'une atmosphère complètement baroque finalement. Crise familiale, incompréhension, conflits divers et guerre. Qui se heurtent, qui se rencontrent avec des personnages hauts en couleur, qui s'aiment, qui se protègent l'un de l'autre. Ou encore qui s'affrontent. Alors, Étranger dans le mariage, Demir Kusturica, Kusturica. Le photographe d'ombre de Hans-Jürgen Greif, G-R-E-I-F. Petit résumé. Comment pourrait-elle m'aimer encore? Me voilà de nouveau au point de départ. Cette fois, j'abandonne la partie pour de bon, quoi que je fasse. Le manque de toi, je le porte en moi. Il ne sera jamais comblé. Écrire mon mal-être est un exutoire, comme l'ébriété. Ceux que j'aime m'accompagnent dans ma nuit sans me connaître. Nous sommes à Hambourg en 1980. Leur diplôme universitaire en poche, Dirk et Rita se marient dans l'emportement du coup de foudre. Mais le bonheur, pourtant, sera de courte durée. Ça me rappelle quelque chose. Rita revient sur la promesse faite à Dirk de ne pas avoir d'enfant, déclenchant ainsi une longue et grave crise dans ce couple qui, vu de l'extérieur, se présente comme un modèle. Alors, le photographe d'ombre de Hans-Jürgen, et le nom de famille, c'est Greif, G-R-E-I-F. Le premier jour du reste de ma vie, ça, je pense que ça pourrait aller très très bien dans la liste des livres de vacances. C'est une femme mariée qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, les gâteaux, les invités, la décoration, tout ça. Tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Alors Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence, vivre enfin. Elle a réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. Et à bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Ça s'appelle, je vous le rappelle, « Le premier jour du reste de ma vie ». C'est de Virginie Grimaldi, comme ça se prononce, comme la famille Grimaldi, ou comme Francine. Personne ne le croira, de Patricia McDonald. Et si votre enfant était un monstre? Nouveau nom, nouvelle ville, nouveau départ. Anna et Adam Wicks n'aspirent à rien d'autre qu'à mener une vie paisible et sans histoire, entourer leur petite fille, Sydney, de toute leur tendresse et tenter d'oublier d'anciennes blessures. Mais C'est sans compter, sans la tragédie inattendue qui vient bouleverser leurs plans, attirant brusquement l'attention des médias sur leur foyer, au risque de leur faire courir à tous les trois un terrible danger, car Anna et Adam le savent, tôt ou tard, ils devront affronter les démons d'un passé qui, en dépit de leurs efforts, a fini par les rattraper. Avis d'un lecteur, c'est un très très bon thriller, c'est bien simple, dit cette personne, je l'ai lu dans la journée sans pouvoir m'arrêter, tellement l'histoire, bien qu'horrible, est prenante. Je vous rappelle le titre, « Personne ne le croira » de Patricia McDonald. Voici un petit polar bien léger, bien québécois, comme on les aime. Ça s'appelle Excellence Poulet, c'est de Patrick Lessard. Nous sommes coin Papineau et Saint-Zotique. Luc Touchette est assassiné dans la ruelle derrière sa garderie, qui se trouve dans le même immeuble que le salon Spa Aphrodite. Y a-t-il juste une autre place que Montréal où ça se peut de mettre une garderie à côté d'un salon de massage érotique? S'indigne Mélissa Picard, éducatrice en deuil de son patron, devant le sergent détective Sylvain Paquet qui ne sait trop quoi répondre. Vous voyez l'ambiance. Excellence Poulet de Patrick Lessard. Et enfin, Falaise de Guy Verville. Élevé dans l'utopie de la libération sexuelle, Serge, Yvonne, Héloïse et Xavier nourrissent depuis longtemps une haine tenace envers leurs parents. On n'est plus dans le léger avec ce Falaise de Guy Verville. Alors voilà, ainsi s'achève l'émission pour aujourd'hui, l'émission des livres plein les oreilles. Je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté en régie avec moi. Je voudrais remercier mes invités, Gérald Cousineau, Gérard Saint-Denis et également Yves Boisvert qui nous a fait la joie, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui va peut-être me donner l'envie d'aller courir et de sortir mes espadrilles du placard. Alors merci à toutes et tous, merci à vous d'être là. Bonne lecture et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.